France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, cette fin d'année 2019 marque aussi la fin d'une année Offenbach. Quel bilan dressé du bicentenaire de sa naissance. Un bilan assez mince, il faut le reconnaître. Peu de disques, peu de livres. Offenbach aura-t-il besoin d'être réévalué? C'est ce que suggère Louis Bilodeau, mon invité, dans un ouvrage qu'il consacre au compositeur dans la collection Mode d'emploi de l'avant-scène Opéra. Un mode d'emploi pour un compositeur aussi populaire, pourra-t-on se demander? Oui, un mode d'emploi pour découvrir Le mariage aux lanternes, Le pont des soupirs ou Madame l'archiduc. Découvrir un autre Offenbach. Offenbach, mode d'emploi de Louis Bilodeau, dans l'avant-scène Opéra. L'orchestre lyrique de l'ORTF sous la baguette de Marcel Courreau, c'était l'ouverture des Bavards de Jacques Offenbach. Bonjour Louis Bilodeau.
Bonjour Philippe.
Vous êtes donc l'auteur de ce Offenbach mode d'emploi qui vient de paraître chez Avant-Scène Opéra. Suivant les principes de la collection, il y a une première partie qui retrace la biographie, la vie du compositeur, qui le remet dans son contexte historique et musical, et puis ensuite il y a une sélection de 30 œuvres incontournables, dites-vous, qui permettent de mieux connaître la composition, enfin les œuvres d'Offenbach, la centaine d'œuvres lyriques à peu près qu'il a composées. Donc il y a évidemment La Belle Hélène, il y a évidemment Les Contes d'Hoffmann, La Péricole, mais aussi quelques titres que j'ai cités en introduction, comme Le mariage aux lanternes ou Ces bavards dont on vient d'entendre l'ouverture. Vous dites effectivement dans votre texte d'introduction que peut-être que Offenbach aurait besoin d'être réévalué, qu'il est parfois considéré avec un peu de mépris ou de condescendance. Qu'en est-il?
Oui, ben, c'est dommage parce que Offenbach a composé une œuvre qui d'abord est monumental, et on joue toujours les mêmes
c'est
ouvrages.
Quatre, cinq mêmes titres.
Oui, c'est ça. Bon, c'est extraordinaire de jouer, bon, Orphée aux Enfers, ou La Grande Chasse de Gerolstein, le Comte d'Hoffmann, mais il y a tout un répertoire donc qui est extraordinairement varié, et il y a souvent une tendresse, une délicatesse, voire une mélancolie, à laquelle on ne pense pas tout de suite en évoquant le nom de Offenbach.
Alors, vous avez opéré, Louis Bilodeau, une sélection donc de 30 œuvres. Vous parlez d'œuvres un peu, c'est ce qui sort un peu du lot, qu'on entend un peu toujours. En France, c'est le cas, même si on a pu, lors de cette année 2019, découvrir quelques œuvres rares. Est-ce que, au Canada, puisque vous venez de Montréal, puisque vous enseignez la littérature au collège à UNSIC, est-ce que il en est de même? Ce sont toujours quelques titres phares que l'on met en avant et il est difficile d'entendre quelques raretés?
Eh ben, pas tant que ça, parce que figurez-vous que quelques jours avant de prendre l'avion, j'ai pu entendre le docteur Ox.
Ah oui, qu'on n'entend pas souvent, en effet.
Non,
oui, oui.
Dans une production semi-professionnelle, mais quand même, c'était assez remarquable. Il y a La Fille du Tambour Major qui est jouée ces jours-ci également dans la région de Montréal. Mais les grandes maisons d'opéra se limitent au Comte d'Hoffmann, à l'occasion, à La Belle Hélène, Orphée aux Enfers. Donc, c'est décevant de ce côté-là, c'est clair.
Mais alors, est-ce que c'est pour une question de durée? Parce que tous ces titres, La Belle Hélène, Orphée aux Enfers, durent 2-3 heures. Ce sont des opéras de vaste dimension. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier, voire négliger les œuvres brèves en un acte. Mais c'est un peu ce par quoi Offenbach a commencé et s'est fait connaître, tout simplement parce qu'il y avait des contraintes.
Et comment? Il n'arrivait pas à se faire jouer à l'Opéra Comique. Bon, c'était son grand rêve, son ambition suprême. Il a tout essayé pour placer des œuvres. Bon, malheureusement, ça n'allait pas. Et même chose pour le théâtre lyrique, c'était de porte close qu'il avait devant lui. Alors, il a fondé carrément donc son entreprise. Il s'est improvisé donc homme d'affaires.
Donc, il n'est jamais aussi bien servi que par soi-même.
En effet, oui. Sauf que Offenbach était doué pour la composition, mais moins pour l'administration. C'est moins plus dire. Alors, en 1865, lors de l'exposition universelle, il ouvre ses fameux bouffes parisiens avec les deux aveugles qui vont le propulser vraiment à l'avant-plan. On va raffoler de cette pochade, finalement. Mm-hmm. Très bref, mais un boléro, notamment à la fin, qui était fredonné, même paraît-il, par l'empereur Napoléon III. Alors, les gens accourent, et quelques mois plus tard, à la fin de l'année 55, il ouvre sa salle, Passage Choiseul. Donc, une salle pour l'hiver, parce que au Carimergny, c'était le temps de l'exposition, le temps des saisons estivales.
Estivales, c'est ça. Ouais, donc, il y a eu deux salles des bouffes parisiens. Oui, d'abord, l'été en 1805, de cette année 1855.
Et les étés subséquents. Oui, voilà. Et bientôt, ça va être, bien sûr, Passage Choiseul, qui va être la salle principale, et elle existe toujours.
Oui, tout à fait. Oui.
Même si on ne joue plus guère d'Offenbach dans ce théâtre.
De le remarquer, Louis Bilodeau. Alors, cette sélection de 30 œuvres incontournables, comment avez-vous procédé?
C'était assez déchirant d'abord de choisir le nombre d'œuvres. Et j'avais des contraintes en ce qui concerne la collection. Je ne pouvais pas atteindre les 500 pages. Oui, et j'ai donc dû faire un choix parfois déchirant. Mais je crois qu'avec ces 30 œuvres, on a à peu près l'ensemble des œuvres essentielles, formidable aussi, je dirais. Oui. Et certaines sont quand même méconnues. Je pense entre autres à Geneviève de Brabant. Ouais. Je pense aussi, à Madame l'Archiduc, que vous avez nommée, qui devrait être jouée plus souvent. Je trouve qu'il y a des pages absolument magnifiques là-dedans.
Et en plus, un échantillon qui permet d'apprécier la variété, des styles.
Oui, il y a plusieurs œuvres très brèves. Bon, je pense entre autres à Pomme d'Api, L'île de Tulipatin, qui justement ferait l'objet d'une très belle soirée. On pourrait réunir deux ou trois de ces opérettes et ça serait formidable, je pense. Alors oui, j'ai essayé de donner un aperçu de l'ensemble de cette œuvre absolument fabuleuse.
Heureuse divinité qui flatterait sans cesse sous des cieux toujours bleus. Tandis que je suis condamné aux sombres claques du royaume infernal. Ici l'on respire une odeur de déesse de l'âme, une suave odeur de myrte et de verveine, de nectar et d'ambroisie. On attend le roucoulement des colombes, les chansons d'Apollon et la lyre de Lesbos, la lyre de Lesbos. Voici les narrateurs, voici les muses, les grâces, les grâces ne sont pas loin, non, 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 les grâces ne sont pas loin, fluidez-les, dansez, calmes et bondissantes, au douce gratis de la lune, de la lune, de la lune, de la lune, de la lune. Les chansons d'amour et la lyre de l'espouse, la lyre de l'espouse. Tous les parfums se déchaînent, tous les parfums se déchaînent. Les parfums de la nuit, les parfums du jour, les parfums du matin, les parfums du soir, les parfums du ciel, les parfums des grâces, les parfums des muses, les parfums, les parfums, les parfums, les parfums.
Jean-Paul Fouché-Court dans le rôle de Pluton, l'orchestre de l'Opéra National de Lyon, dirigé par Marc Minkowski. C'était un extrait d'Orphée aux Enfers de Jacques Offenbach, bien évidemment. Louis Bilodeau, Orphée aux Enfers, 1858. Est-ce qu'on peut dire que c'est une œuvre vraiment essentielle dans la carrière d'Offenbach?
Complètement. Et non seulement dans la carrière d'Offenbach, mais dans l'histoire de ce que l'on appelle communément l'opérette. C'est le premier très grand chef-d'œuvre du genre. Donc, un ouvrage qui occupe toute la soirée avec des chœurs de très nombreux personnages. Parce que là, enfin, Offenbach, à ce moment-là, pouvait voir sur scène autant de personnages.
Oui, parce qu'au début, il était limité à, je crois, 3 ou 4, c'est ça.
Bon, puis c'était à force d'insister qu'il pouvait ajouter un personnage. Même dans Croquefer, il y en a un qui ne chantait pas, mais qui avait toujours des espèces d'écriteaux. On ajoutait le personnage, mais il était muet. Dans Orphée aux Enfers, pas de problème. Il y a Mesdames de la Halle qui avait précédé, donc là aussi, on avait cette même liberté. Mais Orphée aux Enfers a une toute autre ampleur. C'est une œuvre donc qui va obtenir un succès prodigieux, comme vous le savez, qu'Offenbach va reprendre constamment tout au long de sa carrière, quand les finances vont se faire un peu moins florissantes. Il va ajouter des tableaux. En 1874, ça va être à la version féerie, donc à la Gaîté. Il va même ajouter aussi le Royaume de Neptune, tout un tableau donc spectaculaire. Alors oui, ça l'a accompagné jusqu'à sa mort.
Ah oui, donc c'est une œuvre à laquelle il est revenu régulièrement.
Ah oui, l'œuvre fétiche, tout à fait.
D'accord.
Une œuvre fondatrice aussi.
D'accord. Et vous nous dites aussi pour lui, mais aussi pour l'histoire de l'opérette, alors.
Oui, voilà. Parce que là, finalement, on réussit à donner une ampleur, une envergure insoupçonnée. Jusqu'à là, on avait sinon des œuvres très très brèves, des œuvres souvent un peu folichonnes. Hervé aussi avait tout petit peu devancé Offenbach. Ouais. Offenbach a donné donc ses lettres de noblesse aux gens, ça ne laisse aucun doute. Et Orphée aux Enfers aussi, c'est la parodie au paroxysme. Bon, on se moque de la mythologie, des dieux, et c'est absolument savoureux.
Et alors, effectivement, quand on pense à Offenbach, on pense effectivement à l'humour, mais vous le faites remarquer qu'il y a derrière cet humour très souvent une critique éventuellement de la société, du pouvoir en place. Comment était-il justement vis-à-vis des autorités comme Offenbach? Est-ce qu'il a su naviguer? Comment ça s'est passé?
Il a eu la chance d'être assez proche du duc de Morny, qui était le demi-frère de Napoléon III. Mais cela dit, Offenbach n'a jamais été un intime de Napoléon III, il n'a jamais été invité aux fameuses soirées, les séries de Compiègne. Mais donc, grâce au duc de Morny, et parce qu'il y avait évidemment Ludovic Alévi qui travaillait pour le comte et ensuite le duc de Morny, donc ça allait assez bien de ce côté-là. La censure n'a pas été trop sévère. Et il faut aussi reconnaître que dans ses œuvres, Offenbach se moque du pouvoir en général, des princes ou les principicules, pourrait-on dire. Évidemment, on peut faire une lecture en disant, si on peut voir la cour impériale dans les années 1850-60, mais ça déborde ce cadre très strict. Ça va vraiment plus loin, je trouve.
Es naht die Stunde, wir müssen gehen. Wir gehen, und ich soll Armgard nicht sehen.
So komm, so komm!
Ich komme schon. Denn mir ist alles vorbei.
Was sprichst du da? Nur Mut, die Rache ist nah, und bald im Kampfe fühlst du dein Blut.
Piotr Béjala, Dalibor Yenis, l'Orchestre National de Montpellier, dirigé par Friedemann Leier. C'était un extrait des Fées du Rhin, 1864, de Jacques Offenbach. Louis Bilodeau, je pense que si on faisait écouter comme ça à l'aveugle, ce serait bien difficile d'identifier l'auteur de cette musique.
Hein. En effet, c'est le grand opéra d'Offenbach, créé donc à l'Opéra de Vienne, en 64, un petit peu avant la Belle Hélène. Et le compositeur avait mis une énergie incroyable, parce que pour lui, c'était... Bon, enfin, croyait-il, la reconnaissance officielle internationale de son talent de compositeur, mais d'œuvre majeure et sérieuse, parce que c'est une œuvre très longue, sérieuse, donc on rigole pas du tout hein, dans les Fées du Rhin, les Rhein-Mixen.
Ah ouais.
Et bon, malheureusement, ça n'a pas été un très grand succès, en bonne partie à cause du ténor qui était malade. Offenbach avait dû mais sabrer dans sa partition, on avait donné l'œuvre dans une version mais presque incompréhensible, parce qu'il y avait tellement de coupures.
Ah ouais.
Ça a beaucoup nuit, justement, à l'œuvre. Et Offenbach souhaitait réviser l'œuvre, la donner en français à Paris, mais bon, la Belle Hélène est arrivée avec son cortège, je dirais, bon, de spectateurs. Ouais. Et on réclamait toujours davantage d'œuvres légères de la part de Offenbach. Mais on a redécouvert, donc, en 2002, cette œuvre qui est fascinante. Hein. Il y a des pages qui sont très, très inspirées. Et la fameuse barcarolle des Contes d'Hoffmann,
ouais,
a d'abord été composée pour
les Fées du Rhin.
Ouais, aussi. Ouais. Bon, la chanson à boire d'Hoffmann, à l'acte de Giulietta, et d'autres passages, des fois, qu'on reconnaît. Et l'orchestration est somptueuse. Alors, on aurait tort de négliger cette œuvre qui a été créée, d'ailleurs, l'an dernier à Tours, en français.
Mmh,
donc, il a fallu attendre 2018 pour entendre l'œuvre en français.
C'est
incroyable.
Est-ce qu'on pourrait dire, Louis Bilodeau, que ces Fées du Rhin s'inscrivent dans une tradition d'opéra romantique allemand?
Ah, complètement.
Oui.
Ah bah oui. Mm. Avec bon, les personnages fantomatiques, on pense aussi au ballet romantique, Gisèle, la sylphide, etc. C'est vraiment dans l'air du temps. C'est un peu bon, l'esprit bon, de Schiller, etc.
Oui,
et,
oui.
Y a une atmosphère envoûtante. Ah oui, Offenbach était en plein là-dedans. C'est un romantique. Hein. Il est né en Rhénanie, n'oublions pas, à Cologne, en 1819. Il a baigné dans cette atmosphère et ça se sent très très bien dans les Fées du Rhin.
Et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier en ne voyant en lui que l'amuseur du Second Empire.
Oui, oui, oui. Oui. C'est pas du tout le cas, parce que c'est beaucoup plus riche. Et petit détail aussi concernant Vienne, il faut préciser que la ville devient rapidement sa seconde capitale. Hein. Après Paris, il y allait bon, tous les ans, il y a eu des succès mais phénoménaux là-bas. Et il a déjà dit, paraît-il, bon, qu'il composait pour Paris, mais qu'il entendait sa musique à Vienne. Donc c'est là où il retrouvait peut-être les meilleurs interprètes. Mais bon, sans vouloir dire du mal d'Horton Schneider et compagnie.
On me nomme Hélène la blonde fille de l'Édain. J'ai fait quelques bruits dans le monde, Thésée, Arcas, etc. Et pourtant ma nature est bonne. Alors que Vénus la frippa, se complétant nous tourmenter, se complétant nous tourmenter. Dis-moi, Vénus, quel plaisir trouves-tu à faire ainsi cascader, cascader la vertu? dis-moi, Vénus, quel plaisir trouves-tu à faire ainsi cascader la vertu? Ah, malheureuse que nous sommes, beauté, fatale prison des cieux, il faut lutter contre les hommes, il faut lutter contre les dieux. Vous le voyez tous, moi je l'ai, je l'ai, et ça ne sert à rien, car si l'Olympe me mâchait, c'est ça, un jour ou l'autre, il faudra bien, un jour ou l'autre, il faudra bien. Dis-moi, Vénus, quel plaisir trouves-tu à faire ainsi cascader la vertu? Dis-moi, Vénus, quel plaisir trouves-tu à faire ainsi cascader la vertu?
Cascader, cascader la vertu, c'était un extrait de La Belle Hélène par Fanelli et Revoil, l'orchestre lyrique de la RTF, dirigé par Jules Gressier, enregistré en 1948. C'est pour ça que ça a gratouillé un petit peu à un moment. Louis Bilodeau, alors, cette chanteuse soprano française, hein, Fanelli Revoil, qu'on connaît peut-être pas très très bien, elle figure parmi les 20 grandes voix, puisque selon les principes du mode d'emploi, il y a une sélection de grands interprètes du compositeur, donc en l'occurrence d'Offenbach, 10 grands chefs, 10 grandes productions lyriques, oui, qui ont marqué l'histoire. Et puis il faut aussi préciser à nos auditeurs qu'il y a la possibilité d'écouter de la musique. Oui. C'est un livre que l'on lit, mais qu'on peut aussi écouter.
Complètement. Alors, j'ai fait un choix pour que, justement, le lecteur puisse avoir en tête un petit peu l'essence, certaines œuvres, en tout cas, au moins un extrait par œuvre. Les œuvres plus importantes, comme Orphée aux Enfers, La Belle Hélène, Condorfman, ont 2 extraits. Mm-hmm. Et c'est moi qui ai vraiment choisi les interprètes.
C'est ça, ouais.
Parce que, comme là, c'est Fanelli Revoil, je la trouve absolument irrésistible. Elle a un art de dire le texte. C'est tout
à fait. Beaucoup d'élégance en même temps.
Ah, oui, magnifique, oui, je trouve. Oui. Oui, elle était reconnue pour son intelligence musicale. Oui.
Et donc, on peut écouter ces extraits en passant par l'application de l'avancée d'opéra.
Et c'est le premier mode d'emploi avec cette application.
Voilà, donc il fallait quand même le préciser. Donc ça donne accès parfois justement à des œuvres rares, dont il existe peu ou pas d'enregistrement, ou seulement des extraits, qui se permettent de découvrir vraiment tout un pan de l'œuvre d'Offenbach méconnu, qui est, je crois, aussi un peu l'objet de votre travail. Hein.
C'est ça, oui, pour que l'on puisse enfin avoir une vision plus complète de cette œuvre qui est phénoménale, je trouve, et qu'il ne faut pas réduire encore une fois à ses titres les plus célèbres.
Et est-ce que vous avez l'impression, Louis Bilodeau, que depuis quelques années, il y aura une sorte de renaissance un peu d'Offenbach grâce à une génération, jeune génération de chanteurs français?
Il y en a de très bons actuellement. Et il y a aussi des maisons d'opéra qui ont eu le courage, il faut le dire, de monter, par exemple, Barcouf, l'Opéra du Rhin, l'an dernier, j'ai vu, et c'était magnifique. La mise en scène de Mariam Clément, ça a été repris en Allemagne, à Cologne, plus récemment. Les Fées du Rhin, dont j'ai parlé aussi. Alors ça, c'est tout à l'honneur de ces maisons d'opéra, parce que c'est pas gagné d'avance, mais on nous a prouvé que ces spectacles marchent, qu'ils ont une efficacité dramatique. Et oui, avec les chanteurs aussi, on peut admirer le travail qu'une Stéphanie Doustrac, par exemple, accomplit actuellement, ou Yann Beuron depuis des années, donc qui chante les principaux rôles de ténor, le successeur de José Dupuis, en quelque sorte. Nathalie Dessay a été une Olympia, par exemple, merveilleuse. Elle a chanté également Eurydice dans Orphée aux Enfers. Alors, il y a toute une équipe, je dirais, de jeunes chanteurs français qui sont capitaux pour cette redécouverte d'Offenbach. Et des chefs d'orchestre, on pense notamment, bien sûr, à Marc Minkowski à l'heure actuelle, hein, qui est un des champions d'Offenbach.
De celle qui vous est si chère, pouvez-vous me dire le nom?
Son nom,
je saurai le taire, mais si la grisette?
Non, non, mille fois non.
Parlez donc, vous ne voulez pas.
Non, non, je ne la puis, hélas. Cette chanson, ce talisman, dernier espoir d'un pauvre amant. Si vous croyez que je vais dire qui j'ose aimer, je ne saurais pour un empire vous la nommer. Nous allons chanter à la ronde. Si j'adore et qu'elle est blonde, quand je n'ai plus, je fais ce que sa fantaisie veut pardonner, et je puis, s'il lui faut ma vie, la lui donner du mal qu'une amour ignorée. Souffrir, j'emporte l'âme déchirée jusqu'à mourir, mais j'aime trop pour que je dise qui j'ose aimer, et je veux mourir pour ma vie.
Michel Lamel, l'orchestre lyrique de l'ORTF dirigé par Jean-Claude Hartmann, c'était un extrait de la chanson de Fortuny, ouvrage de 1861 de Jacques Offenbach. Louis Bilodeau, là on retrouve un peu la verve lyrique et mélancolique, j'ai envie de dire, d'Offenbach.
Ah, une tendresse infinie, une douceur, une subtilité aussi, c'est admirable, c'est un Offenbach qu'on ne connaît pas assez, je dirais, et qui est irrésistible.
Ouais. D'ailleurs, cette œuvre, la chanson de Fortuny,
jamais donnée. Ouais. Par contre, je dois préciser que, bon, ici, on avait un ténor, mais que Offenbach, comme pour plusieurs autres rôles, avait conçu cette charmante pièce pour une voix de femme. Et oui, ce qui change complètement, bien sûr.
Bien sûr, ouais,
l'atmosphère. Ouais.
Très bien, merci beaucoup Louis Bilodeau. Je rappelle le titre de votre livre, Offenbach, mode d'emploi, qui vient de paraître dans la collection Avant-scène Opéra. Donc on pourra trouver à l'intérieur une sélection des 30 principales œuvres, en tout cas à votre oreille, de Jacques Offenbach, dont évidemment les grands titres, mais aussi des raretés. On n'a pas écouté un extrait de du Pont des Soupirs, mais bientôt on pourra découvrir Maître Péronilla, puisqu'il y a eu un concert au Théâtre des Champs-Élysées qui a été capté.
Tout à fait, c'était en juin dernier, j'y étais, c'était vraiment remarquable pour les chanteurs principalement, et ça va paraître dans la collection
du Palazzetto Bruzzani, je pense, l'année prochaine. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Jean-Michel Bernois, attaché de production Annie Comier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.